Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Besson qui est manager conseil en stratégie chez AI Builders. Bonjour Guillaume.
Bonjour Alexis.
Je suis ravi de t'accueillir. Alors, on va parler du sujet très chaud du moment, hein, de la planète Terre, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, l'AI, comme on dit, hein, comme avait dit Spielberg, je crois, dans un film d'ailleurs, me semble-t-il, de science-fiction.
Oh, voilà. Le concept d'IA est un peu plus ancien, mais c'est vrai que c'est un terme qui a été popularisé par la pop culture en général.
On pourra revenir là-dessus. Alors, Guillaume, déjà, comment tu définis l'intelligence artificielle et comment toi, tu en es arrivé à travailler chez AI Builders?
Bah, l'intelligence artificielle, en fait, c'est un concept plutôt qu'une technologie. En fait, c'est un ensemble de technologies qui vise à imiter certains aspects de l'intelligence humaine. Sans entrer dans les détails techniques, on identifie plusieurs sous-types d'intelligence artificielle. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Même étant étudiant, j'ai eu un fort intérêt pour tous ces sujets un peu technologiques. À l'époque, on parlait plutôt de data science que vraiment d'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure de ma carrière dans le conseil en stratégie, je me suis progressivement orienté vers des sujets plutôt liés à la data et à l'IA. Et en plus, je suis arrivé à une époque où les sujets liés à l'IA ont eu cette vraie montée en puissance. Et on va dire que mon intérêt et l'évolution du marché se sont bien rencontrés.
Donc, background ingénieur, scientifique, évidemment, de ton côté?
Background école de commerce, puis école d'ingénieur.
Et avant AI Builders, on va arriver bien sûr à AI Builders, mais les grandes lignes avant d'arriver à AI Builders de ton parcours?
Alors moi, j'ai fait plusieurs années de conseil en stratégie dans différents cabinets sur des thématiques diverses et variées. En 2020, j'ai eu un vrai revirement vers la partie data IA où j'ai rejoint un cabinet qui était vraiment spécialisé sur ces thématiques. J'y suis resté à peu près 2 ans et j'ai ensuite rejoint AI Builders, donc cabinet de conseil en stratégie data et IA dans lequel je suis actuellement.
Voilà, qui a été créé je crois en 2019 à
Exactement,
peu près.
Oui.
Ok. Et donc, oui, vous conseillez un certain nombre de groupes et de marques sur ce volet spécifiquement intelligence artificielle.
Exactement. Nous, on arrive sur toute la partie stratégie data IA, donc très en avance de phase pour aider les entreprises à identifier ce qu'on appelle les cas d'usage. Donc, quels sont les gisements de valeur potentiels liés à la data et à l'IA pour leurs activités principales ou leurs fonctions support. On intervient aussi sur d'autres types de missions, notamment sur de l'accompagnement pour les chief data officers, qui est aussi un gros sujet aujourd'hui. On intervient aussi sur du pilotage de projets plus opérationnels, évidemment toujours liés à la data et à l'IA. C'est un peu nos principales activités aujourd'hui.
Alors comme tu l'as dit, finalement, bon, le terme intelligence artificielle, il a un côté jargon et il y a plein de fantasmes un peu derrière. Hein, ce qu'on voit tout de suite, la science-fiction, la machine, ça fait un peu penser à l'ordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ça, c'est un peu la peur, le côté anxiogène de la chose, je dirais. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est rendu possible par la technique au service de l'homme et qui est un outil. Alors, l'AI, en fait, ce n'est pas si nouveau que ça. Et alors, on en a beaucoup parlé, tu me l'as dit off record, c'est que bon, bah, c'est l'histoire de OpenAI qui finalement, c'est du fin 2022. Et il y a eu une ouverture grand public de ChatGPT, effectivement, au premier semestre, qui a mis un gros coup de projecteur. Donc, peut-être reparler des quelques dernières années, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup depuis quelques semaines, moi même, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Donc, peut-être parler un peu de cette mise en perspective.
Oui, non, effectivement, Alexis, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui est assez ancien quand on y réfléchit. Les premiers développements scientifiques, c'est les années 40 aux États-Unis. Les premiers vrais modèles conceptuels, c'est les années 50. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de récent. En fait, on a eu un peu une accélération de l'histoire depuis les années 2000 et surtout les années 2010 jusqu'à l'arrivée d'OpenAI et en particulier la sortie de ChatGPT. En fait, la vraie révolution derrière ChatGPT, c'est pas forcément le modèle en tant que tel qui est très performant et très très puissant, c'est vraiment le fait d'y avoir accolé un démonstrateur, mm-hmm. l'interface conversationnelle, qui en fait permet à tout le monde d'utiliser ChatGPT de manière très très simple. Le modèle derrière, qui est le modèle GPT-3 à l'époque, ce qui a un peu changé depuis, existe en fait depuis 2020, mais le fait d'avoir une interface pour l'utiliser sans avoir à faire de programmation ou d'installation de software complexe, c'est vraiment ça la révolution ChatGPT.
Avec d'ailleurs un modèle de gratuité, hein. Enfin de licence, je ne sais pas quel est le modèle, non de licence pardon, excusez-moi, un petit tarif, tu peux redire à peu près le montant de ChatGPT ?
Oui, alors en fait ChatGPT, les premières semaines après sa sortie, il était intégralement gratuit, mmh. et après on a eu deux modèles qui sont sortis, donc un modèle gratuit, il est toujours accessible gratuitement, avec quelques limitations, notamment sur la date sur le dernier modèle d'entraînement. Donc les données ne sont pas 100% récentes. On a une petite période entre la date à laquelle le modèle a été entraîné et ce qui est proposé au public. La version payante permet de choisir le moteur derrière ChatGPT. On a le choix entre GPT-3, GPT-3.5, GPT-4. Ce sont des variantes du moteur d'IA derrière ChatGPT. Et ça permet aussi d'avoir accès à des modules qui, en fait, sont des éléments qu'on vient connecter à ChatGPT pour enrichir, en quelque sorte, le modèle.
Donc, la vraie différence a été cette ouverture au grand public qui est très forte. On sait combien d'utilisateurs déjà de ChatGPT à peu près ?
Alors, ChatGPT a battu le record de croissance du nombre d'utilisateurs à sa sortie. C'est la technologie, au sens général, qui a eu la plus forte croissance du nombre d'utilisateurs. Il me semble qu'on a passé les 100 millions sur le premier mois.
100 millions. On n'a pas dépassé le milliard encore.
Non. Et à mon avis, ça arrivera un jour ou l'autre, mais c'est vrai qu'un milliard d'utilisateurs, quand on a 8 milliards de personnes sur Terre, c'est...
Oui, il n'y a que Mark Zuckerberg qui a réussi ce tour de force.
Exactement.
Et Jeff Bezos, enfin les grands, les quatre de GAFA en tout cas.
Exactement.
Alors parlons effectivement des AI builders, de ChatGPT. Donc qu'est-ce qui se cache derrière les initiales GPT ?
Alors les GPT, c'est un concept qui en fait est assez nouveau même d'un point de vue scientifique. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. C'est un transformer qui a été pré-entraîné pour faire de la génération. C'est un concept qui en fait est extrêmement récent. Le concept de transformer a été découvert par Google en 2017. Mm-hmm. Donc c'était un sujet vraiment d'hyper niche technologique en 2017, 2018, 2019. Et en 2020, on a commencé à avoir GPT-3 qui a été un peu connu. D'accord. Dans la sphère scientifique. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau à l'échelle scientifique.
Mais donc c'est un petit peu quand même un prolongement de Google. Le moteur de recherche avait déjà quelque part de Google une sorte d'intelligence artificielle, tu dirais ?
Pas vraiment. Le modèle de Google, c'était un algorithme qui s'appelait PageRank à l'époque, bon, qui a évidemment largement changé depuis. C'était plutôt un moteur d'indexation extrêmement bien conçu, avec une interface capable d'aller parser, le mot technique, d'aller chercher des informations au sein de ce moteur de recommandation. Là où la vraie révolution conceptuelle avec ChatGPT, c'est que ChatGPT, c'est une nouvelle technologie, qu'on appelle donc le transformer, qui permet de traiter des volumes de textes qui sont au-delà de la compréhension humaine. ChatGPT a été entraîné sur des milliards et des milliards de mots, ce qui en fait... Si on convertit ça en années de lecture, on est sur des dizaines de milliers d'années de lecture pour un humain normal. On est vraiment sur des dimensions... à mon avis, qui sont pas appréhendables par un esprit humain.
Par un humain. Mais donc, si on comprend pour bien, pas mal des auditeurs le savent, mais effectivement, donc ce transformer, comme tu dis, va aller chercher un certain nombre d'éléments existants, d'articles, tout ça dans les moteurs de recherche, Google en l'occurrence, j'imagine, et en priorité, mais d'autres aussi.
En fait, si on prend ChatGPT, les premières versions étaient entraînées sur un ensemble de ce qu'on appelle des corpus de texte. Mm-hmm. Wikipédia, par exemple,
est
un corpus de texte. On peut penser à GitHub aussi, donc un peu la référence pour les développeurs et les codeurs. C'est en fait pas forcément des recherches ciblées dans Google, c'est plutôt un algorithme qui va être entraîné sur des volumétries de texte énormes et qui va chercher à faire
Mais sur du numérique, je veux dire. Ça va pas dans l'encyclopédie Larousse, c'est ça que je voulais dire.
Quoique, si on a une version numérique, c'est possible techniquement. Mais d'accord. C'est vrai que c'était plutôt des corpus de texte préexistants
existants.
Qui ont été
utilisés. Et donc, fort de cette connaissance, finalement, qui va chercher, comme tu dis, avec ces volumes incroyables, il y a une espèce de resynthétisation qui est assez, effectivement, impressionnante pour répondre aux questions.
Exactement, c'est ça. En fait, l'autre révolution derrière ChatGPT, c'est les réponses argumentées. En fait, ChatGPT va sortir une réponse, quelle que soit la question, même si la question est stupide ou même si elle part d'un présupposé faux, ChatGPT sera toujours capable de sortir une réponse argumentée. En fait, l'enjeu aujourd'hui est plutôt d'arriver à distinguer le vrai du faux dans la réponse, mais le fait qu'une réponse sortira n'est pas un sujet pour ChatGPT.
Et alors, si ça avait été noté par des profs de toi à moi, ça aurait été quoi ? Des bons 13 sur 20 ? Parce que finalement, entre guillemets, c'est bien structuré, mais ça manque d'âme, si je résume, volontairement.
Alors, ça, là, pour le coup, il faut distinguer les différents modèles. En fait, il y a quelques
mois... Tu vas me dire, ça dépend de la question.
Ça dépend de la question, évidemment. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet qui est le sujet du prompt engineering, qui est un sujet très, très chaud actuellement. En fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on a aussi une évolution du moteur derrière ChatGPT. En fait, quand on parle de ChatGPT, c'est un peu un terme impropre entre ChatGPT basé sur GPT-3 ou 3.5 et basé sur le dernier modèle GPT-4 sorti il y a quelques mois. On n'est pas du tout sur le même niveau de performance. Mm-hmm. Et GPT-4 a été testé notamment sur des examens nationaux aux États-Unis, notamment l'examen du barreau, l'examen d'entrée en école de médecine, et il arrive à être dans le top des étudiants. Il n'est pas numéro 1 parce que apparemment, il y a encore une partie du métier qui est chasse-gardée des meilleurs étudiants, mais il arrive à passer beaucoup d'examens et même quasiment tous les examens nationaux aux États-Unis.
Certains ont même déjà commencé un peu à tricher des étudiants, à l'utiliser. Ça s'est vu déjà un peu.
Ah, ça s'est, à mon avis, beaucoup vu. Après, entre le nombre de gens qui l'ont fait et le nombre de gens qui se sont fait avoir, il y a peut-être une petite différence.
Mais il faut faire attention. Si les neuf, évidemment, font le même truc dans la classe, c'est vite pistable. Mais les profs doivent déjà commencer à avoir un réflexe par rapport à ça, tu penses ?
C'est, à mon avis, oui, beaucoup de profs, même consciemment ou inconsciemment, doivent commencer à se poser la question. Je sais que certaines écoles, notamment Sciences Po Paris, il me semble, ont interdit formellement l'utilisation de ChatGPT. Et ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que OpenAI a sorti une solution pour détecter les textes générés par intelligence artificielle.
Et toi, alors, ton avis sur les rendus, toi, quels sont les plus et les points de progression, tu dirais ?
Bah, en fait, les rendus de ChatGPT sont totalement dépendants de la question. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT reste une intelligence artificielle qui va donc se positionner par rapport à une question qui lui est posée. Et si la question est stupide, mal formulée, avec un présupposé faux, la réponse sera stupide, mal formulée ou avec une réponse qui est fausse. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à bien poser la question à ChatGPT. Et ça, c'est vraiment une science à part entière. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut improviser. Il y a un nouveau métier qu'on appelle le métier de prompt engineer, qui est la capacité ou la fonction de poser des questions à des IA. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui est et dont l'importance va aller croissante dans les années qui viennent.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que tout le monde se focalise sur la réponse. Mais après, la vraie difficulté, c'est de poser des très bonnes questions. Et exactement. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade-là de ChatGPT.
Si, parce qu'on a des gens qui s'y intéressent. Et on a quand même beaucoup de gens qui commencent à utiliser ChatGPT de manière très, 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 très récurrente. Après, aujourd'hui, ChatGPT, ça a été un peu mis dans les mains de tout le monde sans formation préalable. Voilà. Et on voit que des gens l'utilisent de manière un peu malhabile. Parce que ne connaissant pas cette importance du prompt engineering, et c'est un sujet qui en fait est très neuf pour tout le monde. C'est ça la réalité.
Voilà, donc l'écueil, c'est aussi le côté gadget, il y a le côté fraîcheur et médiatique du début, mais est-ce que ça va tenir sur la longueur ? C'est quand même une vraie question.
Bah, c'est une vraie question. Moi, ma conviction, c'est que ChatGPT, c'est une révolution en tant que telle. Après, c'est un outil qui est quand même si on est aujourd'hui encore sur un démonstrateur un peu en bêta, c'est un outil qui s'est vraiment massifié de manière quasiment sans aucun équivalent dans l'histoire.
Pour toi, c'est quand même une grosse révolution alors. Quand
pour moi, la révolution n'est pas sur le modèle, elle est sur le fait d'avoir
la distribution.
Un démonstrateur. C'est ça, exactement.
Et d'avoir amené autant de les 100 millions de personnes qui rentrent dedans.
C'est ça.
Et ça a donné un coup de boost aussi, tu penses, à l'aspect forcément R&D, innovation, investissement, parce que tout le monde est en train aussi de financer et d'investir là-dedans. Il y a
bien
ça
sûr.
Qui joue.
Bah, en fait, l'IA était un sujet qui est quand même devenu de plus en plus visible ces dernières années. Le fait d'avoir ChatGPT qui fait la une du Monde et du Parisien, ça a été vraiment un énorme accélérateur sur la partie data IA. Moi, par exemple, je viens travailler en trottinette le matin et je passe à côté d'un kiosque à journaux. Quand j'ai vu la une du Parisien sur ChatGPT et sur les génératifs pré-trained transformers, on avait quand même passé un cap en termes de visibilité de la technologie et de l'IA.
Tu t'es dit, c'est plus dans la tête des geeks ou des nerds, les 5 ans que je fais, là, ah, ça y est, ça devient une réalité.
Exactement. Et surtout qu'en plus, là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on parle d'une technologie qui était vraiment de la niche technologique il y a quelques années. Donc, il y a vraiment eu cette montée en puissance extrêmement rapide qui, à mon avis, a surpris tout le monde, y compris OpenAI.
Tu le prends pour une bonne nouvelle, tout ça ?
Ah oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet un peu de démocratiser l'IA en tant que telle, même sans usage, c'est un sujet intéressant et ça le démocratise et ça permet d'attirer à la fois des talents et des investissements sur ce sujet avec énormément de développement scientifique en très peu de temps. C'est ça qui est impressionnant.
Et côté justement application, tu as mentionné le barreau, on a parlé des études. Tu dirais aujourd'hui les grands domaines qui finalement recourent indirectement à ChatGPT et à cette nouvelle forme d'intelligence artificielle.
C'est très variable parce qu'en fait, ChatGPT peut être utilisé en fait, basiquement dès qu'on a une interaction humaine. Donc, on pourrait en mettre absolument partout. La question, c'est est-ce qu'on veut en mettre partout ? Ce qui est une vraie question aujourd'hui. Il y a un enjeu de confidentialité aussi dans ChatGPT. C'est-à-dire que
les data aussi.
Bien sûr. En fait, tout ce qu'on met dans ChatGPT est indirectement dans le domaine public. Donc, il y a un enjeu aussi de ne pas mettre n'importe quoi et de ne pas l'utiliser n'importe comment. Ça, ce sont des sujets qui, en fait, aujourd'hui, sont encore un peu nouveaux et sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de recul. Après, à terme, et si on élargit le sujet à pas uniquement ChatGPT, mais au LLM, Large Language Models, qui est en fait une famille de modèles d'IA à laquelle appartient ChatGPT. On peut en mettre dans beaucoup d'endroits différents et c'est vraiment une technologie qui est en train de fortement monter en puissance.
Je pensais notamment à la justice prédictive qui peut être intéressante aussi sur des applications dans le monde de la justice. Je ne sais pas si tu t'intéresses à tous ces sujets ou...
Si, si, effectivement, j'avais un peu suivi ces sujets. Là, on est sur des choses un peu plus...
Société, quoi.
Un peu plus société et surtout qui sont un peu moins évidentes parce que... Laisser un algorithme rendre la justice, il y a une marge technique, il y a surtout une marge éthique. À mon avis, on n'y en est pas encore et ce n'est pas forcément souhaitable dans l'absolu. Bon, après, c'est un sujet de débat dans lequel je n'ai pas forcément envie d'entrer. Mais nous, vraiment, ce qu'on voit d'un point de vue métier, c'est qu'il y a des enjeux énormes derrière les LLM et beaucoup d'entreprises et de professions qui vont en bénéficier, clairement.
Qu'est-ce que tu mets derrière LLM ?
Large Language Models. C'est les modèles de traitement du langage massif dont fait partie GPT, qui est le moteur de ChatGPT.
Ok. Alors là, on a beaucoup parlé de GPT. Alors, on n'est pas juste là pour faire la promo de Monsieur Altman. Donc, tu peux donner d'autres exemples de AI qui ont été un peu marquantes ces dernières années ?
En fait, on a un autre exemple qui a fait un peu de bruit récemment, notamment avec des fausses images de personnalités qui ont inondé un peu les réseaux sociaux.
Ah oui, le pape et tout ça.
Exactement, on a eu le pape.
Il y a générative, c'est ça le terme ?
L'IA générative, oui, notamment appliquée aux images, en fait. Les GPT sont capables de générer du texte et les IA génératives en général peuvent générer plein de choses, dont du son, dont des images. Et en l'occurrence, c'est sur les images où on a eu vraiment une forte montée en puissance.
Et ça a été généré finalement, tu avais quand même des humains derrière ou comment c'est sorti ces images ?
Non,
qui les a conçus ?
Ce sont des algorithmes qui en fait sont capables de générer des images à partir d'un prompt. Donc un prompt, c'est une question, une requête formulée à une IA. Et en fait, ce sont des algorithmes qui ont été entraînés sur de la génération d'images et qui en fait arrivent à associer à des prompts, des concepts et à générer ces concepts à partir d'une base documentaire.
Mais il y a quand même un petit malin derrière qui va publier un moment. Ça, c'est pas de l'IA.
Ça, c'est pas de l'IA. et j'ai envie de dire encore heureux. C'est vrai que c'est publié derrière, mais ça permet d'avoir de la génération d'images extrêmement réaliste, à pas cher, voire quasiment gratuitement.
T'as pensé quoi de tous ces buzz là avec le pape en doudoune et tout ? C'était quoi toi ton feeling là-dessus ? Tu t'es dit c'est du fake news quoi.
Bah, moi je me souviens beaucoup des années 2019-2020 où il y avait eu la montée en puissance des deepfakes, des vidéos où on incruste le visage d'une autre personne, qui avait un peu défrayé la chronique à l'époque, avec notamment une fausse vidéo de Barack Obama ou une fausse vidéo de Tom Cruise.
Donc le sujet là il est plus fake que IA finalement.
Oui, mais c'est une technologie d'IA. En fait, c'est un type de modèle qu'on appelle les GAN. C'est un terme un peu technique. Ce sont les réseaux adversariaux génératifs ou Generative Adversarial Network qui en fait permettent de faire de la génération d'images en photo ou en vidéo. Et à l'époque, on a vu toute une crainte autour du fait qu'on allait avoir une massification des deepfakes qui allait potentiellement avoir des conséquences plus ou moins... Plus ou moins positif, parce qu'il y a quand même des points positifs.
Redis le terme de network pour les auditeurs qui était intéressant. Là, tu as dit le massification de networks, tu as dit un terme.
GAN.
Allez, GAN, vas-y.
Generative Adversarial Networks.
Et redéfinis un peu ça.
C'est une famille de modèles d'IA qui a été développée en 2014. D'ailleurs, c'est encore une fois assez récent. Ce sont des algorithmes qui sont capables de générer des images.
D'accord. Alors, ça a été impulsé dans quel cadre ? Dans l'industrie créative ou tu sais comment c'est né ce style de technologie.
Alors c'est un scientifique qui s'appelle Monsieur Ian Goodfellow qui en fait a développé cette technologie et qui
américain j'imagine.
Américain oui.
Oui.
Et qui justement a pu comme ça trouver un moyen de générer des images de manière très pertinente. Ce qui est intéressant dans le fonctionnement des GAN, c'est le fonctionnement technique de l'algorithme. C'est en fait deux algorithmes qui s'affrontent. Un qui va générer des images en continu et un autre qui va dire cette image correspond à quelque chose, cette image ne correspond à rien et l'algorithme va s'auto-améliorer jusqu'à être capable de générer cette image.
Mais par contre, il pioche pareil dans les images existantes, on est d'accord. Il ne recrée pas from scratch.
Si,
là, il crée from scratch.
C'est pas totalement from scratch, mais
il peut le faire en tout cas.
Il peut le faire, oui.
Il peut le faire. Par contre, il y a une espèce de validation de est-ce que c'est éligible ou pas.
C'est ça.
C'est franchement assez impressionnant. Et c'est plus gros, tu penses, la partie texte ou la partie image en termes de puissance créative de ce qu'il faut développer scientifiquement pour une autonomie ? Tu dirais que le challenge est plus fort sur le texte ou sur l'image ?
Alors les challenges ne sont pas du tout les mêmes parce que les technologies derrière sont forcément un peu différentes. En fait, moi, je raisonne plutôt en termes d'usage. C'est-à-dire que le texte a l'avantage de toucher tout le monde parce qu'on est tous en train de travailler sur du texte. L'image est peut-être un peu plus spécifique à certains métiers, notamment les métiers de la création. Oui. Donc, je pense qu'en termes de technologie, on a beaucoup de développement scientifique actuellement et c'est un peu difficile d'arbitrer. En termes d'usage, l'un va toucher beaucoup de gens avec un impact... plus ou moins faible, mais globalement très positif à mon sens. Sur l'image, à mon avis, il y aura moins de gens impactés, mais un impact beaucoup plus fort.
Okay. Alors d'ailleurs, ça pose quand même des questions de droits de propriété intellectuelle, parce que quand je t'entends, quand les histoires de pape, où on reprend des photos et on les recustomise, je dirais, Quel est ton regard là-dessus? Parce qu'on est dans le numérique, donc il y a un peu un no man's land, mais bon, on reprend les droits d'un photo. Est-ce qu'il y a eu des poursuites?
Alors, à ma connaissance, non. Après, j'ai pas suivi l'actualité de manière extrêmement
fine. Mais t'es d'accord
fine.
Qu'il y a un vrai sujet derrière, sur le copyright et le droit d'auteur derrière. Si je commence à reprendre des trucs existants et que je le remachine, ça pose quand même une question de la création originelle.
Bien sûr. C'est vrai, c'est une très bonne question. À ma connaissance, aujourd'hui, c'est un sujet juridique qui n'a pas encore été
abordé.
Totalement abordé, je pense, mais pas totalement solutionné. Après, ça peut être valable aussi pour un LLM. Si un LLM commence à faire de la rédaction de brevets, qui est propriétaire du brevet? C'est vrai qu'on a des choses comme ça qui aujourd'hui sont des sujets assez nouveaux,
oui,
à mon sens.
Tu me diras, la vraie question, c'est la question tu l'as dit, de l'usage final.
Bien sûr.
Si c'est un petit poste de pape qui circule, bon, ok, à part le pape et peut-être un photographe, mais bon, même si c'est pas ouf. Voilà, mais effectivement, si on reprend, je te donne un exemple, un motif d'une marque très connue et qu'on va le déconstruire et le publier à la télévision sans en parler aux ayants droit. D'ailleurs, ça me fait penser à un homme politique qui avait fait ça dans un montage. Je pense que les auditeurs vont le reconnaître. Bon, bah, y a des retours de bâton au niveau juridique. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Alors, Guillaume, en tout cas, on sent ton expertise ultra pointue de ce sujet, hein. Finalement, ça fait combien de temps que tu baignes là-dedans? Ça fait, même quand tu étais plus ado et tout ça, tu étais déjà un peu à fond, déjà une dizaine, quinzaine d'années?
Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était informatique depuis des années, en fait. Depuis que je suis au lycée, c'est un sujet qui m'intéresse. Après, effectivement, les études que j'ai pu faire, très axées business, m'en ont un peu relativement éloigné. Encore que j'ai quand même toujours eu cette appétence pour le sujet. C'est vraiment depuis, on va dire, 5 ans que je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, avec le fait de travailler vraiment concrètement sur ces sujets depuis environ 3 ans, 3 ans et demi.
Bon. Parfait. Alors justement, on va parler un petit peu des deux, trois grandes tendances sur l'IA que tu vois. Ça me fait penser à une phrase. Tiens, on va voir si je te fais un petit quiz là. Je le fais pas souvent avec mes invités. Qui a dit « Je m'intéresse à l'avenir car c'est là que je vais passer les années qui vont arriver » à peu près. Tu sais qui a dit ça?
Non, là, j'ai pas la référence.
C'est Woody Allen.
D'accord.
J'aime bien cette citation. J'intéresse à l'avenir parce que j'y vais y passer une grosse partie de ce qui arrive. Enfin, c'était un peu mieux dit. Comment tu peux nous dire, toi, les deux, trois grosses tendances que tu vois sur l'IA sur les 3-5 prochaines années?
Bah, globalement, sur l'IA, on a deux grosses tendances, à mon avis, qui sont évidemment le sujet des LLM. C'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais pour moi, c'est vraiment la grosse évolution actuelle.
Ça, parce que ça implique quand même, il y a énormément d'implications
bien
sur
sûr.
Les langues. Ça peut être une démultiplication de communication pour un produit qui va être produit en local et distribué dans tout le monde entier. Ça,
exactement.
C'est encore très compliqué en termes de barrière de langue.
Ça, justement, en fait, non. Aujourd'hui, un ChatGPT, la langue n'est pas un sujet pour ChatGPT. ChatGPT, si on lui pose une question en espagnol et qu'on veut une réponse en français, on n'aura aucun souci pour l'avoir. Justement, en fait, c'est aussi la particularité de la technologie utilisée derrière. C'est comme elle raisonne par concept et pas par langue, la langue n'est pas un sujet pour ce type de modèle.
Okay.
C'est aussi une révolution.
Donc ça facilite déjà la trad. Et donc ça, tu dirais donc une tendance lourde sur de pousser encore plus les fameux LLM,
oui.
C'est ça? Donc ils vont être quoi? Encore plus performants, encore plus... Quels vont être un petit peu les nouveaux développements là-dedans, tu penses?
Bah, aujourd'hui, on observe une bataille avec plusieurs acteurs qui sont entrés dans la bataille, justement, avec d'un côté OpenAI, pionnier du domaine, avec GPT-4, qui aujourd'hui est quand même encore la référence. On a Google qui a annoncé il y a très peu de temps Palm 2, qui est un modèle plus puissant sur le papier que GPT-4, peut-être un peu moins connu, un peu moins utilisé, mais qui sont vraiment en fait aujourd'hui les deux grands acteurs. On a OpenAI et derrière Microsoft face à Google sur ce sujet. On a Meta, anciennement Facebook, qui a lancé un autre modèle qui s'appelle Llama, qui ne joue pas la course de la puissance, mais joue la course de l'optimisation. Donc on a un modèle qui est moins puissant, mais quasiment aussi performant grâce à des travaux qui ont été faits sur l'optimisation du modèle. Et quand on creuse un peu la technique derrière, c'est assez incroyable honnêtement ce qui a été fait par Meta.
Ils ont moins investi que dans le métaverse quand même là-dedans.
Alors je ne sais pas si tu as investi Meta dessus.
Ils ont plus communiqué, hein. Finalement, j'ai l'impression que l'IA a fait beaucoup plus de poids médiatique que les annonces sur le métaverse. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, non, effectivement, c'est vrai que Meta, bon, déjà le nom vient du métaverse, donc c'est un peu le sujet d'investissement numéro un de Meta aujourd'hui, j'imagine en tout cas. Après, côté IA, Meta a une expertise et des équipes très très compétentes.
Oui. Et puis il peut y avoir un cousinage entre les deux, surtout parce qu'un métaverse peut demain devenir une IA, entre guillemets.
Bah, la différence entre Second Life et un métaverse, c'est la blockchain, déjà, pour avoir la rareté numérique, et l'IA pour automatiser le traitement de certaines choses. Donc effectivement, le fait que Meta soit très avancé sur les sujets IA, c'est, ça fait à mon avis un peu partie de leur ADN.
C'est qui aujourd'hui qui est le plus en avance, tu dirais, à part OpenAI et de tous ces acteurs, de, les grandes firmes? Tu dirais Google, Microsoft et Facebook?
Alors bon, après, on ne sait pas forcément ce que fait Apple là-dessus. Je pense qu'Apple n'est pas non plus complètement à la traîne, notamment avec les nouveaux MacBooks qui embarquent tous des puces dédiées à l'IA, ce que Apple appelle les Neural Engine. Donc je ne peux pas imaginer qu'Apple ne soit pas très en avance aussi sur ces sujets. Après, aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a des modèles très généralistes qui vont être extrêmement performants et des modèles spécialisés qui vont être peut-être un peu moins performants en général, mais beaucoup plus performants sur un sujet précis.
Après, c'est comme d'habitude, c'est la monétisation qui va faire que ça dure ou pas. Parce que je pense notamment à la réalité virtuelle, qui avait été un moment une innovation dont on a beaucoup parlé, mais où les modèles de monétisation étaient moins évidents.
Oui.
Ça va être clé pour l'IA.
Ah, bien sûr.
Parce que là, OpenAI, ils ont quand même réussi le tour de force de vendre des licences. Mais il y a la question de comment l'appliquer. Peut-être une petite parenthèse sur les modèles économiques. Bon, on ne va pas se faire tout le podcast là-dessus, mais comme tu es en plus dans la cabinet de conseil Strat, c'est-à-dire quoi? On propose derrière l'IA, il y a quoi? Il y a du conseil, évidemment, pour aller stratégiser plus les entreprises. Et après, il y a des outils SaaS qui sont proposés, c'est ça?
En fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'IA, c'est un sujet qui intéresse basiquement tout le monde. C'est un sujet qui a été un peu mis sur le devant de la scène. Universel, qui a été mis sur le devant de la scène par ChatGPT et OpenAI. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'y intéressent, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle ou parce qu'elles anticipent des évolutions de leur business model qui sont plus ou moins fortes selon le type de business model. Donc, beaucoup d'entreprises s'y intéressent et il y a énormément de choses qui apparaissent. Bon, après, les modèles économiques sont très variables selon le type de solution et le type d'entreprise. Mais aujourd'hui, pour moi, la technologie en fait, évolue tellement vite sur ces sujets que les modèles économiques vont évoluer assez vite. C'est là ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur des sujets très très nouveaux en fait dans l'absolu, on ne s'en rend pas compte, mais on est sur les fondamentaux techniques datent de 2017. Aujourd'hui, on est en 2023, on a à peine 6 ans depuis la création des fondamentaux technologiques. Donc on est encore sur des choses qui évoluent très très vite, ne serait-ce qu'entre GPT-3 sorti en 2020 et GPT-4 sorti en 2023, on a un monde en termes de performance.
Donc, va vite quand
c'est
même.
C'est ça, tout va très vite et les business models en fait évoluent en même temps que la technologie.
Et en plus, comme si demain l'IA devient si importante, elle va être aussi implémentée dans les produits. Donc on peut imaginer que ça va être, d'un point de vue serviciel ou produit, ça peut aider à gagner, commercialiser des produits. Je ne sais pas ce que tu en penses, ça peut être possible ça.
Ah bah là on a un très bon exemple assez récent, c'est Photoshop. Photoshop qui intègre la solution Firefly de Adobe sur de l'IA générative intégrée directement à l'outil. Et aujourd'hui, ou dans quelques semaines, quelques mois, on aura des utilisateurs de Photoshop qui en fait utiliseront quotidiennement une solution d'IA générative embarquée dans leur outil.
Ça, c'est de l'IA générative Firefly, ouais.
Firefly, c'est la solution d'IA générative de Adobe.
Ça, c'était un gros taf de développement, oui, avant de le sortir.
Oui, j'imagine qu'il y a eu quelques heures de développement derrière. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on est sur un outil qui est utilisé par des millions de personnes, Photoshop, qui en fait va intégrer de l'IA générative sur une mise à jour. C'est ça qui est incroyable.
Ok, super intéressant. Donc ça, tu as parlé de l'LLM, qui est une première tendance lourde. Tu citerais quoi d'autre comme les un ou deux autres tendances?
Je citerais aussi tout ce qui est génération d'images. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui a fait beaucoup sourire, notamment avec les images du pape, comme tu en parlais un peu avant, sur les réseaux sociaux. Derrière les sujets de génération d'images, on a beaucoup de sujets, notamment pour les métiers de l'art et de la création.
Voilà.
En fait, ce sont des métiers qui vont connaître une grosse évolution dans les mois et années à venir. Et derrière ça, il y a des vrais enjeux, notamment peut-être pour les métiers du journalisme ou peut-être pour encore d'autres métiers. C'est vrai que la génération d'images, c'est un sujet qui est encore très récent et il y a un peu l'effet la poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose d'étonnant. Il n'y a pas forcément tous les usages qui ont été identifiés dessus, mais les gens font des tests et on voit des choses amusantes apparaître.
Donc ça va être surtout des outils quand même que vont maîtriser les créatifs pour les aider à créer différemment. Maintenant, il restera toujours l'humain pour créer de manière singulière. Tu es d'accord? Tu partages ce constat?
Oui, totalement. Alors, je n'imagine pas un monde dans lequel on n'a plus de créatifs. Ce sera un peu triste.
Et puis surtout, il faut décomposer ce qui se passe dans la création.
Bien
parce
sûr.
Qu'il y a des tâches qui peuvent être très simples, qui peuvent permettre de gagner du temps grâce à l'IA. Et puis si demain, c'est peindre une fresque ou réaliser un film de cinéma, bon là, il va falloir se lever de bonne heure quand même pour confier ça à un IA.
Non, même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA générative peut générer une œuvre ou une image qui va être très belle, mais il faut quelqu'un pour lui poser la question.
Voilà.
Il faut le regard critique sur l'œuvre d'art qu'un non-professionnel de l'art n'a pas. Enfin, moi, je suis incapable d'avoir un avis de critique d'art sur une œuvre d'art
générée
par
l'IA. Donc ça, c'est l'expérience que tu es en train de définir. L'expérience, elle n'est pas encore modélisée au sein de l'IA.
L'expérience, l'expertise et puis le regard critique. En fait, une IA n'est pas capable de dire si quelque chose est beau ou pas. Ou alors j'ai raté un développement, mais je ne pense pas. Donc c'est encore c'est encore des sujets qui sont propres à l'humain et qui, à mon avis, font que sur la partie de création, on aura toujours des humains qui seront des créatifs professionnels avec un talent artistique, et l'IA va les aider à exprimer leur talent artistique.
D'accord, donc c'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de fantasmes derrière l'IA, parce qu'il y a aussi des choses très simples. C'est pas que le truc de science-fiction de ouf à la Bien Spielberg sûr. Ou à la Kubrick, c'est aussi des petites tâches. D'ailleurs, tu l'as défini, le data science, tu en as parlé tout à l'heure.
Oui.
Tu peux parler aussi de comment les différences entre le data science et l'IA pour les auditeurs?
Bah, en fait, la data science et l'IA, bon, c'est des termes qui sont un peu utilisés parfois à tort et à travers. La data science, globalement, c'est le traitement des données en utilisant des techniques issues de l'économétrie, d'autres sciences, notamment des statistiques, pour arriver à générer soit ce qu'on appelle des insights, donc des situations qui sont révélées par les datas, ou alors pour arriver à tirer des tendances. C'est très très résumé et je m'en excuse auprès des auditeurs, mais on est sur un ensemble de technologies scientifiques qui vont permettre de traiter des données en masse, pour faire très très simple. L'IA est un peu différent. L'IA, l'idée, c'est d'imiter certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. Alors on est très très loin d'imiter toute l'intelligence humaine, et à mon avis on n'y arrivera jamais, ou avant des siècles et des siècles, ou peut-être jamais, mais l'idée, c'est plutôt d'arriver à entraîner des algorithmes pour imiter certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. Par exemple, la capacité à comprendre ou à générer du texte. Comprendre du texte, c'est un domaine d'activité qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing. Générer du texte, c'est un domaine d'activité qu'on appelle le NLG, Natural Language Generation. Et les LLM en sont la dernière occurrence à date. On a aussi toute la partie traitement d'images avec ce qu'on appelle la computer vision, donc l'analyse automatisée d'images. On a tout ce qui est analyse de séries temporelles, qui en fait est mine de rien un sujet lié à l'IA, en essayant d'identifier des grandes tendances dans des jeux de données, ce que les modèles prédictifs font de mieux en mieux. Et on a aussi un champ sur l'advanced AI, où on inclut un peu tous les autres champs de traitement de la donnée, notamment tout ce qui est analyse sonore, analyse d'autres éléments, etc.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout ce travail de la donnée, il est colossal, et il est un gros préalable à l'IA. Et encore faut-il déjà faire ça pour commencer à, comme tu dis, à développer des intelligences artificielles, parce que ça, c'est un gros sujet, les data. C'est déjà, tu trouves, on a une maturité de gestion des data dans les entreprises? Ça dépend quand même, hein, ou chez les êtres humains.
En fait, là où c'est un peu l'inconvénient de ChatGPT, c'est ChatGPT a laissé penser que l'IA était facile. Le problème, c'est que pour faire de l'IA, il faut de la data, pour faire de la data, il faut de l'IT, et en fait, à la base, on en revient toujours à un problème fondamental, qui est qu'il faut avoir une infrastructure IT qui fonctionne correctement pour avoir de la data qui soit accessible, en qualité, disponible, tous les critères de la data quality, pour ensuite commencer à envisager de faire de l'IA. Donc faire de l'IA.
Donc il y a quand même des prérequis costauds en tech avant de se faire plaisir sur de l'IA, quoi.
Bien sûr, l'IA, alors ça n'est pas que la cerise sur le gâteau, ce serait un peu excessif de dire ça, mais ça n'est pas faisable normalement si on n'a pas des gros fondamentaux tech qui sont clairement établis.
D'accord. Super intéressant, Guillaume. Tu as une autre tendance que tu voulais nous partager dans les top 2, top 3?
Non, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de tendances qui apparaissent sur le marché de l'IA. C'est vrai que c'est peut-être un peu les deux grosses tendances que moi, je vois aujourd'hui. Les autres tendances, c'est beaucoup des développements scientifiques qui n'intéressent pas forcément le grand monde aujourd'hui, juste au moment où on aura la prochaine grosse évolution de l'IA qui va intéresser beaucoup de gens. Moi, ma vision des choses aujourd'hui, c'est qu'on a deux gros sujets, la génération de texte via ce qu'on appelle les LLM, la génération d'images, et qui sont vraiment les deux grosses familles d'applications pour le grand public aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a d'autres petites IA simples qu'on utilise déjà sans le savoir? Tu peux nous donner des exemples dans la vie quotidienne, parce qu'il y a aussi des petites IA simples, j'imagine, qui ont été implémentées.
Un exemple très simple que j'utilise souvent lorsque je dois expliquer ce qu'est l'IA, c'est Snapchat. Snapchat avait mis les masques, vous savez, les oreilles de chien ou les oreilles un peu rigolotes. En fait, derrière, c'est un GAN, un réseau adversarial génératif, qui est chargé d'identifier le format du visage et de greffer des éléments interactifs par-dessus.
D'accord, comme les filtres Instagram.
Les filtres Instagram, c'est des exemples d'IA très, très,
très minimalistes.
C'est ça, qui ont une certaine valeur pour les utilisateurs, sinon elles ne seraient pas présentes. Mais c'est un exemple un peu d'IA au quotidien.
Ou comme les micro-montages que tu trouves sur les téléphones portables. Tu sais, ils te font des petits montages marrants avec une petite musique sur les moments de ta vie. Tu vois ce genre de truc ou pas? Ça, c'est un mini-IA.
C'est ça, exactement.
Ça, c'est dur à développer, ce genre de truc ou pas?
C'est quand même un peu de taf ou ça se fait rapidement en vrai?
Non, en fait, aujourd'hui, on a des solutions existantes sur étagère qui permettent d'avoir les premières briques techniques pour développer ça. C'est pas très compliqué.
Par exemple,
sans être...
tu peux citer des solutions qui existent simples.
Alors, d'IA. Là, on s'éloigne un peu de mon champ de compétences. C'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt un développeur qui pourrait.
Je te cuisine un peu là. Ouais, non, c'est... Je te cuisine un peu. Mais en tout cas, c'est déjà ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est déjà, bah, déjà existant dans plein d'applications. Dans le monde des plateformes, je pensais à tout ce qui est les séries que tout le monde visionne. Il y a des applications d'IA déjà?
Ah bah Netflix a été pionnier sur le domaine avec leur moteur de recommandation de séries qui a fait leur, alors peut-être pas tout leur succès, mais une partie de leur succès. En fait, c'est un moteur d'IA.
C'est du data science qui est devenu ultra poussé et qui est devenu de l'IA parce qu'ils avaient pu traiter, ils ont un peu plus d'intelligence sur le sujet.
Oui, alors justement Netflix avait posté un article sur leur blog il y a quelques années qui expliquait bien la chose. Il faudrait que je le retrouve d'ailleurs, qui expliquait qu'en fait Netflix fonctionnait par un système de clustering, en fait regrouper les contenus par famille de contenus, et était capable d'identifier des patterns de consommation et de pousser certaines séries ou certains films par rapport à ce qui avait
ça,
été consommé
avant. On le voit même parfois sur certains scénarios des films proposés par Netflix, oui. Même si on apprécie Netflix qui a financé de l'audace artistique. Et bon, je suis forcément une posture un petit peu plus diplomate parce qu'on a reçu la DIRCOM de Netflix il y a deux jours, et Netflix a quand même été un pavé dans la mare. Enfin, qui je trouve a amené une innovation incroyable dans la distribution. Mais un des écueils qui peut être objecté à Netflix, c'est qu'effectivement avec, comme tu dis, ce traitement par les algorithmes et un peu cette espèce de prédéfinition des goûts, on en perd parfois une prescription, une vraie curation d'expertise. Ce matin, on avait un distributeur de cinéma parler des films du Losange qui était vraiment avec du vrai artistique, des grands films, et finalement, il choisissait pour les gens. C'est ce que Netflix finalement choisit un peu pour toi. Donc voilà, il y a tout un débat sur l'artistique qui peut se créer. Et c'est vrai que parfois on voit des films, on se dit mais ils ont écrit le scénar sur algorithme. Donc voilà. Parce que comment tu vas dire ces sujets d'algorithme, de choix d'offres? Parce que c'est une des difficultés de ces plateformes aussi, c'est que c'est ultra long de choisir. Et finalement, à un moment, ça devient déceptif. Comment tu vois ce truc-là, toi?
Moi, c'est ce que j'appelle l'effet Harry Potter. C'est-à-dire que sur les plateformes, quand on a vu le film Harry Potter 1, par exemple, on va avoir des recommandations pour voir 2, 3, 4, 5, 6, 7, partie 1 et 7, partie 2. Parce que justement, l'algorithme, ayant identifié qu'on a aimé tel film, va nous pousser naturellement les suites. Parce qu'évidemment, le format de contenu est très proche.
D'accord. C'est même fait déjà un peu sur les mobiles et Internet, oui. Avec les systèmes un peu de cookies. Quand on fait des recherches, on te pousse telle recherche. Ça, c'est déjà très fort, un petit peu même à l'usage personnel.
Oui, non, effectivement, c'est d'ailleurs un des...
Ça, c'est un écueil. Ça, je trouve que c'est un peu immersif.
Bah, l'idée est intéressante, l'idée de dire que si on a aimé tel produit, on pourrait aimer tel autre qui a des caractéristiques proches. Conceptuellement, ça s'entend. Après, c'est vrai que ça a pu être fait de manière un peu trop systématique, notamment le fameux effet Harry Potter dont je parlais avant, et que sur de la consommation de masse, ça ne marche pas forcément, ou il y aura toujours des cas dans lesquels ça ne va pas marcher.
Ou même des solutions qui étaient à un moment très novatrices, je pense à Criteo, oui. Et qui à un moment sont devenues un peu plus immersives et un peu moins appréciées des consommateurs.
Exactement, oui.
Donc ça, tu partages cette analyse qu'il faut être un peu vigilant dans le dosage et la manière dont on impose aux clients.
C'est toujours le rôle du concepteur de l'algorithme. En fait, l'algorithme n'est pas magique. À un moment, il a été conçu par quelqu'un, et la personne qui le conçoit ou les personnes qui le conçoivent doivent être capables d'arriver à traiter les biais. Et voilà. Ça fait partie des biais un peu...
C'est l'UX un petit peu. C'est une genre d'UX pour définir quelle est la place que je laisse à l'être humain dans son choix, dans sa décision.
Oui, après, de l'UX, je ne sais pas. Ça peut être aussi au niveau du modèle où on va être trop systématique dans les recommandations et totalement occulter le fait que la personne peut voir autre chose que ce qu'elle a vu avant. Quelqu'un peut être fan de films d'horreur et fan de thriller, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il a vu un film d'horreur une fois qu'il est condamné à ne regarder que des films d'horreur. Oui. C'est aussi ne pas être trop systématique dans les recommandations.
Oui, parce que ça peut quand même beaucoup saouler les gens. C'est un peu les prendre parfois pour des buses.
C'est sûr.
Mais bon, ça, je lance un autre débat. À part Netflix, un autre cas que tu pourrais citer qui est assez notable quand même?
Sur de l'IA, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA est tellement présente dans notre quotidien que c'est difficile d'avoir un cas qui sort plutôt qu'un autre. En fait, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais quand on a, par exemple, un SMS où on a la complétion de texte automatique, donc le téléphone qui va pousser des suggestions de texte, comme sur Gmail, comme sur votre téléphone, en fait, c'est de l'IA embarqué. En
fait, l'IA ça t'aime bien quand ça fait ça, toi, personnellement?
Ça peut être utile. Après, c'est jamais à 100% efficace. Donc, il faut toujours le prendre pour ce que c'est. C'est une petite feature en plus, sympathique ou non, et utile ou non. C'est pas une révolution en tant que telle, mais c'est pas non plus rien.
Donc, un des challenges de l'IA, c'est comme cette personnalisation que tu mets en avant.
Exactement.
Tu dirais, toi, alors maintenant, justement, si on se place un peu, on arrive à la dernière partie du podcast, sur les challenges de l'IA, pour toi, les gros challenges. Là, par exemple, on parle du challenge de la personnalisation. On a parlé avant du challenge de ne pas imposer trop à l'être humain les choses.
c'est quoi les défis qu'il va falloir régler par rapport à l'avenir de cette IA pour toi ?
Bah, c'est un sujet qui est assez, assez complexe pour le coup. On a eu un énorme attrait pour les technologies de data IA assez récemment, avec encore une fois ChatGPT et tous les développements là-dessus. C'est des sujets qui sont assez nouveaux pour tout le monde aujourd'hui, pour être très honnête. Là, je pense que le challenge principal...
c'est... D'ailleurs, ils sont perçus en vrai, en très grand public, je ne te parle pas des experts, et c'est kiff-kiff, c'est 50-50. Il y a pas mal de gens qui voient ça comme une menace aussi. Je trouve dans le traitement, mais en tout cas, un des enjeux serait l'aspect communication et la médiatisation de tout ça. Je sais pas si tu partages ce point.
Non, pour le coup, on a eu quelques personnes qui ont poussé une vision un peu catastrophiste de l'IA en disant voilà. L'IA c'est horrible, ça va avoir plein de conséquences négatives. La réalité, à mon sens, c'est que on a cette position un peu confortable d'avoir peur de tout, notamment de ces nouvelles technologies. C'est des technologies qui vont entraîner évidemment des gros changements à pas mal de niveaux, qui vont permettre notamment à des métiers comme les métiers créatifs, mais aussi d'autres métiers, de mieux faire leur travail, de mieux exprimer leur créativité. Il y aura quelques conséquences.
Ou différemment,
bien sûr.
Mais ça peut aider effectivement à gagner la productivité.
Bien sûr.
Donc, ce n'est pas forcément un substitut à... on n'est pas forcément dans du James Cameron où les machines vont remplacer les êtres humains. On n'est pas là-dedans encore.
Ah non, pas du tout. Ça, pour, pour moi, on en est très loin. Après, ce qui se passe, c'est que ça va permettre aux gens de faire leur métier mieux, différemment, ou d'y incorporer d'autres éléments. Et que l'IA, aujourd'hui, qui est aujourd'hui déjà très présente dans nos vies, notamment avec Netflix, notamment avec nos téléphones portables, notamment avec...
Oui, va se démocratiser, rentrer dans des usages, mais comme tu l'as dit, c'est pas la seule clé.
Bien sûr.
Ça reste la technologie, la data, il y a plein de briques de la technologie qui finalement sont clés.
Bien sûr.
Autant que l'IA, ou même plus parfois.
Bah, qui sont même essentiels pour faire de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une structure qui aurait une IT complètement défaillante ne peut pas envisager sérieusement de faire de l'IA. C'est aussi le rôle d'avoir... le rôle de... des gens qui interviennent en tant que conseiller là-dessus, d'insister sur l'importance un peu des briques fondamentales avant de commencer à faire les cas d'usage les plus...
Donc ça peut être sain aussi pour toute la technologie, ça va driver le marché et ça va permettre aussi d'assainir, comme tu disais, d'un peu mieux structurer son IT, certains chantiers qui sont peut-être parfois moins développés par les boîtes.
Exactement.
Qu'est-ce qui te marque, là je passe dans la dernière partie du podcast, qu'est-ce qui te marque, toi, tu as quand même conseillé pas mal d'entreprises chez AI Builders, qu'est-ce qui est frappant dans les entreprises que tu conseilles, sans forcément citer un tel et un tel, dans leur structuration par rapport à tous ces sujets ?
Bah, globalement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est un certain niveau d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu tendance, quand on est extérieur à ce milieu-là, d'imaginer que toutes les entreprises progressent tous en même temps, au même rythme. On a quand même des vrais niveaux d'hétérogénéité entre les entreprises, avec des entreprises très en avance de phase sur tout un tas de sujets qui, en fait, ont compris l'importance de la data et de l'IA, mais pas la semaine dernière, hein, vraiment depuis des années, et qui, en fait, ont investi et ont vraiment développé une vision forte là-dessus. D'autres entreprises qui ont peut-être un peu moins investi ou un peu moins été conscientes de l'importance de ça, et qui, aujourd'hui, sont plutôt en phase de rattraper leur retard. Aujourd'hui, avec ChatGPT et la médiatisation, je pense qu'il n'y a plus personne qui pense que l'IA est un sujet de mode qui va disparaître en 6 mois. Donc aujourd'hui, l'enjeu est plutôt de dire comment est-ce qu'on consolide notre avance si on est en avance, ou comment est-ce qu'on rattrape le retard si on est en retard. Mais l'enjeu de dire est-ce que l'IA est une mode ou est-ce que l'IA est importante, pour moi, ça n'est plus un sujet aujourd'hui.
Oui, c'est une réalité. C'est ça. Et justement, si on parle de capital investissement, là, je prends plus l'angle start-up et parce que financement, parce que tout ça peut consommer beaucoup de ressources. Tu en as parlé off record concernant OpenAI qui a quand même mobilisé beaucoup d'investissements. Tu dirais qu'on est où, France et Europe versus US, sur ces sujets de manière objective?
Alors, il y a deux questions en une. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché européen a développé quelques acteurs très, très en phase et très, très en avance sur le marché. On a notamment Dataiku, qui est un acteur un peu connu du traitement no-code. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les GAFAM sont tous américains.
Oui.
On parle plutôt de Magma que de GAFAM aujourd'hui, puisque Facebook est devenu Meta. Donc, si on prend les 5 grosses entreprises que sont les Magma, donc Meta, Apple...
Google,
Microsoft et Amazon sont des acteurs qui aujourd'hui sont tous américains et sont tous très en avance sur la partie data IA. Après, la réalité...
Tu dirais quoi, 3 ans d'avance, 2-3 ans d'avance?
Non, je ne raisonne pas en année d'avance parce que ça n'a pas forcément de pertinence vu que la technologie évolue très vite pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui peut être très en avance à un instant T...
Par contre, ils ont des moyens qui ne sont pas rivalisés aujourd'hui par les Européens.
Bien sûr, il y a ce côté-là aussi. Après, la réalité, c'est que l'argent ne fait pas tout et la puissance pure ne fait pas tout. Donc, on a des acteurs français qui sont très bien aussi. Je vais citer notamment Lighton qui est un acteur qui fait des LLM français qui fonctionne très bien.
Tu as cité Dataiku aussi.
Dataiku aussi.
Ouais.
Ça, c'est des acteurs français qui sont de très très bon niveau. Et les Américains ont cette puissance de feu financière incroyable, mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres éléments qui.
Oui, et puis nous, on a quand même des très grands scientifiques aussi, bien sûr, ouais. Et il faut les retenir. C'est bien ça sûr. Qui est important.
On a Luc Julia, on a Yann Lequin qui sont des Français. Donc,
oui. Qui peuvent bosser aux US parfois, mais ça arrive. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Parce que je faisais le parallèle avec le Covid et le fait que la France avait été un peu larguée, l'Europe par rapport aux États-Unis. On n'en est pas là, tu dirais, dans le niveau de l'IA. On est un peu plus avancé.
Bah, globalement, c'est encore une fois, c'est un sujet qui évolue tellement vite qu'on peut être très avancé à un moment et un peu en retard à un autre moment. Donc, la réalité, c'est que le
Covid. On est encore naissant dans tous ces métiers, quand même.
Oui, c'est ça, c'est des métiers assez naissants. On prend le métier de prompt engineer, par exemple, qui est assez récent d'un point de vue conceptuel. Le fait d'avoir une personne dont le rôle va être d'interagir avec une IA, c'est pas du tout quelque chose d'évident au premier abord. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un des métiers qui recrute le plus dans la Silicon Valley. Il y a aussi cette montée en puissance très très rapide sur des temps très courts.
Prompt engineer, c'est-à-dire, c'est ça
prompt
le.
Prompt engineer, oui.
Ça, c'est un des métiers les plus recrutés actuellement aux US.
Alors, j'avais vu passer une brève de presse comme quoi c'était le métier qui était le plus recruté dans la Silicon Valley. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais c'est quand même intéressant de voir qu'un métier comme ça, qui était totalement hors des radars en 2022, devient tout de suite quelque chose de très très attirant pour beaucoup de monde.
Bon, Guillaume, on arrive dernière partie du podcast. Alors, c'était le sujet, moi, la question, là, je sors un petit peu de l'IA, quoique peut-être on va y revenir par les films que tu vas citer. C'est la question que je pose sur les goûts de création de notre invité. Donc, quels sont tes goûts? Ça peut être film, ça peut être série, ça peut être BD, musique. Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué, toi?
Moi, j'aime bien globalement tout ce qui est thriller, tout ce qui a une dose de suspense.
D'accord.
Là, j'attends avec impatience la sortie de The Boogeyman, basé sur le livre de Stephen King.
The Boogeyman ?
Le croque-mitaine.
D'accord.
Ouais. Moi, j'aime bien ces films un peu. Enfin, ces films ou ces
œuvres
en général. Thriller.
T'es un fan de Shining, alors, comme
Shining
moi.
Et Doctor Sleep, la suite. Qui
d'accord.
Sont deux belles œuvres. J'attends aussi beaucoup la sortie de Black Mirror, la nouvelle saison.
Ah, t'avais beaucoup aimé Black Mirror sur la prospective que ça donnait à la société ?
C'est ça. Alors, pas la dernière saison. J'ai trouvé qu'elle était un peu en dessous du reste, mais j'ai trouvé Black Mirror le truc de Black Mirror était une très belle série.
Très audacieux sur l'avenir. Donc, t'aimes bien quand il y a un peu d'anticipation et tout ça, forcément.
Presque de la déformation professionnelle à ce niveau-là. Mais ce que j'aime bien dans Black Mirror, c'est que c'est des scénarios qui, en fait, sont pas forcément. Moi, j'avais un peu peur en commençant la série d'avoir quelque chose qui soit trop lié à la technologie. Et Black Mirror, mine de rien, n'est pas que lié à la technologie. On a des scénarios qui, en fait, aujourd'hui, sont techniquement réalisables. Alors, d'accord. Pas tous, mais.
T'avais aimé des Parasites ou des Sans Filtre, qui sont des films un peu coup de poing. Je sais pas si t'avais vu.
Alors, Sans Filtre, j'ai pas vu. Parasite, oui, j'avais bien aimé.
T'avais bien aimé. Et sur les films qui traitent justement de l'IA, donc AI, le film de Spielberg, ou bien les films de Cameron, évidemment, les Terminator et tout ça, ou même les Avatar, quel est ton regard sur ces films?
Il faut les prendre pour ce que c'est des œuvres de fiction, notamment Terminator et Matrix, qui sont un peu les deux noms qui reviennent le plus souvent. C'est des très bons films d'anticipation, mais. Qui ne sont pas des films scientifiques et ils ne sont pas leur but, donc on ne peut pas leur reprocher ça, mais on est très très loin de l'IA en tant qu'objet aujourd'hui. Ce sont plutôt des sujets un peu de divertissement et pas du tout des choses d'anticipation sérieuse.
Et 2001, donc tu serais plus fan, forcément. Tu l'as vu 2001, j'imagine.
Alors j'ai lu les livres, j'ai pas vu les films.
Ah, c'est t'as vrai pas
j'ai
vu
2001, 2011, 2061 et 3001.
Arthur C. Clarke, mais t'as pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ah,
film, ça, c'est un film à voir, là, pour toi qui es passionné d'IA. Et parce que dans le film, bon, je te spoil un peu la scène que beaucoup d'auditeurs connaissent, c'est l'ordinateur. À un moment prend une conscience. D'ailleurs, il a Interstellar, il a un peu pompé Christopher Nolan.
D'accord.
La scène où finalement il se met à chanter, mais donc ça, il posait. Mais déjà, Kubrick était quand même très visionnaire sur la question du progrès, alors que c'était en 1968,
oui.
Et du rapport à l'intelligence artificielle. Voilà. La toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais toi à un ou une jeune qui veut travailler dans ce secteur de la technologie et de l'IA de par ton parcours.
Moi, le conseil que je peux donner, c'est ne vous spécialisez pas trop vite. En fait, l'IA, ça reste un sujet qui a des gros fondamentaux mathématiques, technologiques, scientifiques. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de faire des études génériques ou généralistes, j'allais dire, avec une école d'ingénieur ou une formation scientifique ou même une formation business. C'est intéressant d'avoir une approche business du métier aussi et de surtout, à côté de ces études classiques, entre guillemets, vous former par des MOOC, par des certifications. Aujourd'hui, on a Coursera qui est une excellente plateforme pour se former sur ces différents sujets.
Mmh.
On a DeepLearning.ai qui est une plateforme de formation à l'IA qui produit des cours d'une qualité incroyable et qui sont totalement gratuits aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment ce côté...
Online, e-learning, quoi.
Et puis surtout, on vit une époque formidable parce qu'on a tous ces cours accessibles gratuitement qui, en fait, sont de niveau universitaire, mais vraiment de classe mondiale. On est sur des cours d'excellente qualité qui sont accessibles gratuitement ou à des coûts vraiment pas très élevés et qui permettent comme ça de se former un peu en continu et surtout de se former par rapport aux technologies telles qu'elles évoluent. Les cursus classiques sont très bien parce que ça donne des fondamentaux solides, mais ça n'évolue pas aussi vite que la technique. Et à un moment, quand on veut faire de la technique ou qu'on s'intéresse à la technique en tant que telle, c'est bien de pouvoir suivre l'évolution via des cours un peu plus spécialisés. Moi, c'est un peu ça le conseil que je peux donner, c'est faites des études classiques, techniques ou non, mais intéressez-vous aussi à ces sujets d'un point de vue plus personnel.
Toi, en termes de secteur, parce que on sent bien le secteur du technologie et des développements où tu t'es dirigé, mais il y a des appétences de secteurs que tu préfères par rapport aussi des clients que tu as pu conseiller?
Non, moi j'ai travaillé pas mal de secteurs assez différents, notamment dans l'industrie, notamment dans la grande consommation, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai pas forcément un secteur de prédilection. Les enjeux sont très différents d'un secteur à l'autre, ça c'est évident. La maturité d'Ataya peut être globalement assez différente aussi. Après, c'est aussi de s'adapter aux enjeux des entreprises par rapport à ces différentes nouvelles technologies.
D'accord. Sur l'environnement notamment, tu penses que l'IA peut amener quelque chose? Je pensais en t'écoutant.
Il y a tout le sujet aujourd'hui de la Green AI que certaines entreprises essayent de pousser. Là, pour le coup, et pour être très honnête, on est sur des sujets que je maîtrise un peu moins, donc je ne peux pas avoir d'avis définitif. Après, à mon avis, comme l'environnement va devenir un sujet extrêmement important dans les années à venir, notamment avec le réchauffement climatique, et notamment avec, on parle plutôt de changement climatique que de réchauffement climatique, et avec les enjeux autour de la pollution, de la montée des eaux, etc., je pense que l'IA, effectivement, aura une place à jouer. Mais là, pour le coup, on parle de sujets sur lesquels j'ai une expertise technique qui est un peu moins imprégnante.
Écoute, Guillaume, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast très inspirant autour de l'intelligence artificielle. Merci à toi.
Merci beaucoup, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.